Une expression proverbiale très connue dit que tous les chemins mènent à Rome. C'était littéralement le cas dans l'Empire romain. Les Romains avaient mis en place un vaste réseau de voies qui s'étendait à travers tout l'Empire. Et toutes ces routes convergeaient vers Rome, la capitale et le centre du monde de l'époque. Et c'est ainsi, par la suite, que cette expression a fini par signifier qu'il existe plusieurs manières d'atteindre un même but, qu'il existe une multiplicité de moyens pour parvenir à une même fin. Mais Rome étant le siège de la papauté, certains ont donné un sens spirituel à cette expression, qui signifie alors qu'il existe plusieurs manières de s'approcher de Dieu. C'est vrai d'une certaine manière au sein de la foi chrétienne. Il suffit d'écouter le témoignage de conversion de deux chrétiens pour constater cette diversité d'approches. Ceci dit, d'autres vont encore plus loin et étendent le sens spirituel de cette expression à toutes les religions. Et c'est ainsi que l'expression « tous les chemins mènent à Rome » finit par signifier pour ces personnes que toutes les religions mènent à Dieu. Une autre manière de dire ou de chanter que nous irons tous au paradis. Toutes les religions mènent à Dieu. Que faire d'une telle affirmation ? Que dire ? Que répondre à ceux qui nous questionnent sur le sujet ? Que répondre à ceux qui nous questionnent sur le sujet en soulignant le pluralisme de notre monde ? Que répondre à ceux qui nous reprochent d'être intolérants quand nous affirmons, par exemple, que Jésus est le seul chemin vers Dieu ? Au final, est-ce que toutes les religions se valent ? Est-ce que tous les chemins, toutes les religions mènent à Dieu ? Le christianisme ne serait-il qu'une religion parmi d'autres ? Dans un passage bien connu au début du chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus affirme qu'il est le chemin vers le Père. Pas un chemin, le chemin. Pas un chemin parmi d'autres, mais le seul chemin, l'unique. Comment comprendre cette parole de Jésus ? Comment comprendre cette parole de Jésus qui suscite souvent l'indignation, qui engendre souvent des critiques acerbes envers l'Évangile, le christianisme, les chrétiens et Jésus, les targuant d'être intolérants, étroits d'esprit, et orgueilleux, et j'en passe. Pourtant, Jésus a bel et bien dit qu'il était le seul chemin. Enfin, il n'a pas dit seul, mais il a dit « Je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons commencé au début du mois de septembre une série que j'ai intitulée « Et pourtant, Jésus l'a dit ». Une série qui se propose de considérer des paroles difficiles de Jésus. Celles qui sont dures à comprendre, celles qui sont polémiques, celles dont nous ne savons pas toujours quoi faire. Et pourtant, Jésus les a dites. Alors je vous invite à lire ce texte qui se trouve au début du chapitre 14 de l'Évangile de Jean et que nous allons méditer ce matin. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus et ses disciples sont dans la chambre haute. Ils viennent de prendre la dernière Pâque ensemble. Et Judas vient de les quitter après que Jésus ait annoncé sa trahison. Jésus vient aussi de leur dire qu'il allait bientôt les quitter et que là où il allait, où il irait, ils ne pourraient pas le suivre. Mais Pierre ne l'entend pas ainsi. Il suivra Jésus jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le chemin. Et Jésus lui dit alors qu'avant que le coq n'ait chanté, il l'aura renié trois fois. Et notre passage arrive tout de suite après cette annonce du reniement de Pierre. Dans ces versets du début du chapitre 14, Jésus commence par redire à ses disciples qu'il va les quitter. Cependant, ils peuvent être en paix et faire confiance à Dieu, lui faire confiance, parce que Jésus va revenir les chercher après leur avoir préparé une place pour qu'ils soient avec lui. Et Jésus ajoute au verset 4 que là où il va, ils en savent le chemin. Cette dernière déclaration de Jésus suscite une interrogation parmi les disciples. Et Thomas pose à voix haute la question que tous devaient penser dans leur tête. Seigneur, verset 5, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? C'est cette question de Thomas qui va amener la déclaration de Jésus qui nous intéresse ce matin. Verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Que dit Jésus dans ce verset ? Nous l'avons dit, il répond à l'interrogation de Thomas sur le chemin dont parle Jésus pour aller là où il va aller après les avoir quittés, là où il va aller pour leur préparer une place. Le contexte immédiat de ce passage souligne clairement que ce qui est au cœur de l'affirmation de Jésus au verset 6, c'est le chemin. C'est la question du chemin plus que la question de la vie et de la vérité. Tant et si bien que l'on peut comprendre le verset, ce verset 6, que l'on peut le paraphraser de la manière suivante. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin vers le Père, car je suis la vérité et la vie. » Et d'ailleurs, la traduction de la Bible du Semeur le reprend dans ce sens. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père, sans passer par moi. » Oui, Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité. En lui, en Jésus, Dieu le Père est révélé, expliqué. Par Jésus, la vérité de Dieu devient accessible aux hommes. Au début de son évangile, au chapitre 1, verset 18, Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. » Jésus est celui qui annonce le Père, qui le révèle, qui l'explique. C'est pourquoi il est le chemin vers lui. Il est le chemin vers lui parce qu'il est la vérité. Il est aussi le chemin vers le Père parce qu'il est la vie. C'est en lui que se trouve la vie en général. Il est celui qui la crée, il est celui qui la soutient. Mais il est aussi et surtout celui qui donne sa vie pour offrir la vie en abondance, et la vie qui va jusque dans l'éternité, jusque dans le Père ou jusque vers le Père. C'est donc par Jésus que nous pouvons vraiment connaître Dieu, que nous pouvons véritablement recevoir la vie qui va jusque dans l'éternité, jusque dans la présence du Père. Jésus est celui qui peut nous relier à Dieu le Père. Il est le seul, affirme ce texte. Vous avez certainement noté que Jésus ne dit pas qu'il est un chemin, mais le chemin. Cette affirmation d'exclusivité signifie que les autres chemins, tous les autres chemins, sont des fausses routes, sont des impasses, sont des chemins d'errance. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres, il est le chemin, le seul, l'unique. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'itinéraire bis. Non, toutes les religions, si je crois à ce que Jésus dit, ne mènent pas à Dieu. Du moins pas au vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Jésus est le chemin. C'est pourquoi nul ne vient au Père que par lui. C'est pourquoi, écrira l'apôtre Paul à Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi, écrira l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, c'est sa prédication du chapitre 4, que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pourquoi Jésus dira, et il le dira de bien des manières, que celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Vous avez aussi certainement noté que Jésus ne dit pas qu'il indique le chemin, mais qu'il est le chemin. C'est en passant par lui que l'on accède au Père. C'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est lui qui nous offre sa justice pour que Dieu puisse nous déclarer justes. C'est lui qui a pris sur lui notre condamnation pour que nous puissions être sauvés. L'affirmation de Jésus est donc catégorique, exclusive. Et nous notons qu'il est le seul à faire une telle affirmation dans toutes les religions de cette terre. Sur cette terre. Et beaucoup, nous le notons aussi, considèrent cette affirmation comme intolérante, arrogante, étroite d'esprit. La bien-pensance du moment de notre monde, c'est une forme de tolérance. Une tolérance qui, soit dit en passant, est bien intolérante envers celles et ceux qui n'entrent pas dans le consensus, dans le politiquement correct du syncrétisme actuel, de la largesse d'esprit qui est de mise. Aujourd'hui, être large d'esprit, c'est forcément être dans la vérité. Être étroit d'esprit, c'est forcément être dans l'erreur. Si la largesse d'esprit a ainsi été élevée au rang de critère infaillible, il en va de même pour la sincérité. Et c'est ainsi que l'on entend dire parfois, en ce qui concerne la spiritualité, que l'important, c'est d'être sincère. L'important, ce n'est pas la religion. L'important, ce n'est pas le chemin que j'emprunte. L'important, c'est que ma démarche soit sincère. Que penser d'une telle affirmation? La sincérité serait-elle suffisante? Dieu qui voit les cœurs ne se satisferait-il pas de notre sincérité? Comment Dieu pourrait-il rejeter quelqu'un de sincère? Par souci de déontologie, j'aimerais dire ici que beaucoup de ce que je vais dire dans la suite du message, je l'ai tiré d'un livre, d'un tout petit livre qui ne paye pas de mine, d'un auteur qui s'appelle Stephen Gokroger. Le livre s'intitule « C'est l'évidence même ». C'était publié il y a quelques dizaines d'années chez EBV. Cet argument de la sincérité est attirant. Il est tentant. Il semble même raisonnable. Il crédite Dieu de générosité et celui qu'il adopte de tolérance. Mais est-il juste pour autant ? En réalité, l'argument de la sincérité ne tient pas la route. Il se peut qu'Hitler ait été parfaitement sincère dans son désir d'éliminer les Juifs et de créer une race supérieure. Mais qui peut dire que l'assassin de 6 millions de Juifs avait raison parce qu'il était sincère ? Au mieux, on peut dire qu'Hitler avait sincèrement tort. Non, la sincérité ne suffit pas. Qu'en est-il de vous et de moi ? Je peux sincèrement croire que New York est en Afrique. Je peux sincèrement croire que la Lune est un gruyère. Mais je suis sincèrement dans l'erreur. Quelle que soit la force de ma conviction, elle n'est jamais suffisante pour faire de ce que je crois la vérité si c'est l'erreur. La vérité de quelque chose n'est pas en moi. Elle n'est pas en celui qui croit. Elle n'est pas dans la conviction de quelqu'un. Cela est vrai en général et à plus forte raison pour ce qui est du ou des chemins qui mènent à Dieu. Cet argument de la sincérité est donc non seulement faux, mais en plus il est dangereux. Il est dangereux dans la vie en général et dans la vie spirituelle en particulier. Si je souffre d'une maladie mortelle et que je vais voir mon médecin et que ce médecin est incompétent, son diagnostic, aussi sincère soit-il, ne me sauvera pas. Ce dont j'ai besoin dans ce cas précis, c'est d'un diagnostic juste et pas seulement de sincérité. La Bible affirme que nous sommes perdus sous le jugement de Dieu à cause de notre péché. Mais elle affirme aussi que Dieu a pourvu au remède. Il a pourvu à ce mal qui nous ronge en Jésus-Christ. Elle pose le diagnostic. Et elle propose le remède. Ce qui compte ici, dans ce cas de figure, c'est avant tout la véracité de ce qui est dit par Dieu, et non pas la sincérité de ce que je crois ou pas. L'armateur du Titanic était certainement sincère quand il affirmait qu'il était insubmersible, qu'il ne pouvait pas couler. Beaucoup de gens dans notre monde sont sincères en affirmant que toutes les religions se valent et que nous irons tous au paradis. Mais la question, je le redis, n'est pas celle de leur sincérité, mais celle de la véracité de ce qu'ils affirment. Revenons à notre question du départ. Toutes les religions mènent-elles à Dieu ? Toutes les religions se valent-elles ? Le christianisme n'est-il qu'une religion parmi d'autres ? Après tout, pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs chemins pour aller jusqu'à Dieu ? Si toutes les religions menaient à Dieu, alors quel que soit le chemin que j'emprunte, j'arriverais forcément au même endroit, au bon endroit. Et donc, le chemin que j'emprunte, effectivement, n'est pas si important que ça, puisque, au final, j'arriverai à destination. Ce qui compte, c'est d'atteindre le but. Que penser de cela ? Ce serait le cas si toutes les religions disaient la même chose. En tout cas, si elles s'accordaient au moins sur les choses essentielles. Mais c'est loin d'être le cas. En réalité, l'enseignement des religions, pour ne prendre que les plus répandues, est souvent contradictoire. Je dirais même presque toujours contradictoire sur les points importants. Si l'hindou croit en de nombreux dieux, le musulman, lui, croit en un seul dieu. Si le bouddhisme ne dit rien sur la nature, voire l'existence de Dieu, le judaïsme, quant à lui, décrit en détail le caractère de Dieu. Si le chrétien croit qu'il est donné à chaque individu de vivre et mourir une seule fois, le bouddhiste croit qu'il passe par de multiples réincarnations. Qu'en est-il du salut ? Que disent les religions ? De nombreuses religions, pour ne pas dire toutes à l'exception du christianisme, offrent le salut en échange d'offrandes et de présents à leur Dieu. L'hindouisme nous dit que l'accomplissement du devoir, l'observance des rites et la discipline mènent au salut. Les musulmans doivent s'acquitter de leur obligation de jeûner, de prier, de réciter leur credo. Et seulement dans ce cas, et après avoir soutenu l'épreuve du jugement, ils parviendront au paradis. Les chrétiens, quant à eux, contrairement aux adeptes des autres religions, affirment que l'on ne peut pas gagner son salut par quelque pratique que ce soit, on le reçoit comme un cadeau. Je pourrais multiplier les exemples, à l'infini quasiment. Mais ces exemples suffisent pour illustrer que les religions de notre monde ne vont pas dans la même direction, ne parlent pas de la même chose. Et puisqu'elles ne vont pas dans la même direction et qu'elles ne parlent pas de la même chose, elles n'arrivent pas au même but. Oui, un examen même sommaire des religions du monde nous amène rapidement à la conclusion que la formule « toutes les religions mènent à Dieu » derrière une apparence de grande tolérance ne tient pas et est tout simplement fausse. Les différences sont trop nombreuses, contradictoires et trop importantes. Non, toutes les religions ne mènent pas à Dieu, de la même manière que tous les avions qui décollent de Paris-Charles de Gaulle n'atterrissent pas à La Guardia, à New York. Revenons à la déclaration exclusive de Jésus qui affirme être le seul chemin vers Dieu. Comment la comprendre face aux affirmations des autres religions? Notons premièrement que cette exclusivité est exprimée par Jésus lui-même, pas par un de ses disciples. Notons aussi ensuite qu'aucune autre religion ne fait une telle affirmation. Et puis, notons quelque chose d'évident que je vais démontrer, essayer en tout cas, c'est que la vérité est généralement exclusive. Prenons un exemple. 2 plus 2 égale 4. 4 est la bonne réponse. C'est la vérité. C'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 4,5, c'est pas 5,5, c'est pas 7, c'est pas 10, c'est pas 100. Il n'y a qu'une réponse, c'est 4. J'ai beau vouloir que ce soit autre chose, ça ne le sera jamais. 2 plus 2 égale 4. Quoi que j'en pense, aussi sincère que je puisse être. Si la vérité est toujours exclusive de ce qui est faux, l'erreur est généralement inclusive, beaucoup plus inclusive que la vérité. Et dans le cas de notre exemple, de ce petit calcul, l'erreur est capable d'inclure toutes les autres réponses. Tous les autres chiffres en dehors de 4. Ainsi, la largesse d'esprit dont nous avons parlé et qui affirme que toutes les religions mènent à Dieu, que toutes les religions se valent, a beaucoup plus de chances d'être un signe d'erreur que de vérité. Mais parler d'erreur pour les autres religions m'amène à faire une précision importante. Et j'ouvre ici une petite parenthèse. Dire que Jésus est la vérité, dire que Jésus dit la vérité, ne veut pas dire que tout est faux et mauvais dans les autres religions. Bien des choses enseignées par les autres religions ont une vraie valeur morale et servent à promouvoir des critères éthiques de haut niveau. C'est pourquoi nous devons nous garder de porter un regard condescendant sur les autres religions. Tout comme nous devons nous garder de penser que tout est faux chez eux ou chez elles et que tout est juste chez nous. Parce que c'est ici qu'il faut bien faire la différence entre le christianisme et le Christ et la personne de Jésus. Jésus est la vérité, mais le christianisme contient parfois des erreurs. Ce n'est pas le christianisme qui est la vérité, c'est Jésus. Ce que les hommes ont fait et font de l'enseignement du Christ nous fait même parfois honte. Et l'histoire de l'Église, au travers des siècles, nous offre malheureusement de trop nombreux exemples. C'est pourquoi il est primordial que nous nous souvenions que ce n'est pas une religion à laquelle nous adhérons en tant que chrétiens. Ce n'est pas une religion que nous suivons, c'est une personne, c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais si la plénitude de la vérité est en Christ, nous devons nous rappeler qu'elle déborde largement du christianisme. C'est aussi ce que l'on pourrait appeler la grâce générale de Dieu. Il est donc juste de dire que Jésus est la vérité, mais qu'il y a aussi parfois des choses vraies et bonnes dans les autres religions. Pas sur la question du salut, mais sur d'autres choses. Je referme cette parenthèse. J'aimerais terminer ce message en soulignant quelques-unes des caractéristiques du christianisme qui le rendent unique et qui le distinguent, en tout cas à mes yeux, de toutes les autres religions du monde et qui font que je crois Jésus quand il dit qu'il est le chemin vers le Père. J'en soulignerai quatre. Premièrement, dans le christianisme et dans le christianisme seul, le salut ne se gagne pas. C'est le cas dans toutes les autres religions. Il y a toujours quelque chose à faire pour accéder à Dieu, pour le mériter. Notons quand même, pour être honnête, que dans le christianisme, dans son histoire, il y a aussi eu de cela, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les mérites et les œuvres ne sont pas exemples du christianisme. Mais cela, ce n'est pas l'enseignement du Christ. C'en est une perversion, parce que l'enseignement du Christ sur ce sujet est que tout est accompli. Jésus a tout accompli pour le salut. Ça veut dire que moi, je n'ai rien à faire, simplement à l'accepter, à le recevoir. Le don gratuit de Dieu. Connaissons ce verset de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et puis Éphésiens, « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un don parce que tout est accompli. Et qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de système à points dans le christianisme. Le salut a été entièrement accompli par le Christ et il nous est offert par grâce. C'est la première caractéristique du christianisme qui lui est unique. La deuxième caractéristique du christianisme qui m'amène à pleinement adhérer à ce que Jésus dit quand il dit « Je suis le chemin vers le Père », c'est que dans le christianisme, c'est Dieu qui cherche l'homme et non pas l'inverse. L'histoire de tous les mouvements religieux de la terre, c'est l'histoire des hommes en quête de Dieu. Dans toutes les religions, c'est l'homme qui cherche Dieu, qui cherche un chemin pour s'approcher de Dieu, pour gagner Dieu, pour le mériter. Et il le fait au travers de toutes sortes de rites, de cérémonies, d'expériences mystiques, de dévotions fervente, dans des lieux saints, etc. Dans la Bible, nous découvrons une toute autre histoire. C'est l'histoire de Dieu qui met tout en œuvre pour sauver les hommes qu'il aime, après que ceux-ci lui aient tourné le dos. Le salut dont parle la Bible, c'est Dieu en quête de l'homme, et non pas l'homme en quête de Dieu. C'est Dieu qui se révèle. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est Dieu qui veut se faire semblable, qui veut se faire connaître, pardon, et qui va jusqu'à devenir semblable à nous en Jésus, pour être accessible, pleinement accessible. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il désire être trouvé par les hommes et il leur propose même le chemin pour aller jusqu'à lui. Cette démarche est elle aussi unique au christianisme. La troisième caractéristique que je soulignerai est celle de l'assurance qu'offre le salut, qu'offre la foi chrétienne. Le chrétien, par la foi en Jésus, peut dire dès ici-bas qu'il est sauvé. Il peut le dire parce que Dieu l'affirme. Il peut le dire parce que l'Esprit Saint témoigne en lui qu'il est un enfant de Dieu. Dans tous les autres systèmes religieux, l'incertitude est de mise. Tout dépendra des efforts persévérants ou pas. Tout dépendra du bilan final. Tout dépendra de la disposition de la divinité à ce moment-là. Puisque le système des autres religions est celui des mérites et des œuvres, personne ne peut jamais savoir s'il est sauvé, s'il en a fait assez ou pas. Mais il en va tout autrement par le Christ. Parce que Jésus a tout accompli et qu'il nous offre les mérites de son œuvre, de sa justice, nous pouvons avoir l'assurance du salut. Pas besoin d'attendre de me tenir devant Dieu pour savoir que je suis sauvé. Ce n'est pas de la prétention, c'est croire ce que Dieu dit. Et à de nombreuses reprises, Jésus dira que celui qui croit aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Jamais aura. C'est ah, maintenant, tout de suite. Dès aujourd'hui. Cette troisième caractéristique du christianisme est unique au christianisme. La quatrième et dernière caractéristique que j'aimerais souligner, c'est en réalité celle qui valide tout, tout ce que je viens de dire. Celle qui crédibilise tout, c'est la résurrection de Jésus. Tous les sages des autres religions sont morts. Bouddha est mort. Confucius est mort. Mahomet est mort. Jésus est mort. Mais il est ressuscité. Les autres sages ont laissé des enseignements précieux dans certains domaines, certaines formes de sagesse, etc., mais pas une présence éternelle. Seul Jésus vit aujourd'hui. Et sa résurrection valide tout, tout ce qu'il a dit sur le salut, tout ce qu'il a dit sur lui, tout ce qu'il a dit pour offrir le chemin vers son Père. Sans la résurrection de Jésus, le christianisme ne serait qu'une religion parmi d'autres. Sans la résurrection, dit l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, notre foi est vaine. Mes amis, si Jésus n'est pas ressuscité, je l'ai déjà dit à d'autres reprises, nous pouvons rester au lit le dimanche matin. Mais parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons croire que ce qu'il a dit est vrai. Il a vaincu la mort. Il a le pouvoir de nous sauver. Il a les moyens de nous amener jusqu'au Père. Car il est le chemin vers le Père. Et personne ne vient au Père sinon par lui. Le christianisme est unique parce que Christ est unique. Il est l'unique venu de Dieu. Il est l'unique chemin vers Dieu. Il est la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Les leaders des autres religions disent « Suivez-moi et je vous montrerai comment trouver la vérité. » Jésus dit « Je suis la vérité. » Les leaders des autres religions disent « Suivez-moi et je vous montrerai comment trouver la vie. » Jésus dit « Je suis la vie. » Les leaders des autres religions disent « Suivez-moi, je vous montrerai le chemin vers Dieu. » Et Jésus dit « Je suis le chemin vers le Père. » Que Dieu nous accorde à chacun de le trouver et que Dieu nous accorde à chacun d'y marcher. Car c'est le chemin de la vie en abondance, dès ici-bas, dans la relation renouvelée, réconciliée avec Dieu, et de la vie pour l'éternité, dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.